Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 36. En rentrant chez elle, Lucetta vit sous un réverbère, tout près de sa maison, un homme qui paraissait attendre. Quand elle s'arrêta devant la porte, il s'avança pour lui parler. C'était Jop. Il s'excusa de s'adresser ainsi à elle, mais ayant appris qu'un marchand de blé du voisinage avait consulté M. Farfrae sur le choix d'un associé de travail, il voulait se proposer. Il avait de bons certificats à produire et avait écrit à M. Farfrae dans ce sens, mais il serait bien reconnaissant à Lucetta de vouloir dire un mot en sa faveur. « C'est une chose qui ne me regarde en rien, » répondit froidement Lucetta. « Vous pourriez pourtant, mieux que quiconque, témoigner de mon honnêteté, madame. J'ai passé plusieurs années à Jersey, et je vous y ai connue, de vue. C'est possible, mais moi je ne vous connaissais pas. Je crois, madame, qu'un ou deux mots de vous me feraient obtenir la place que je désire tant, » insistait Jop. Elle refusa nettement de s'occuper de l'affaire, et, anxieuse de rentrer avant que son mari ne s'inquiétât de son absence, elle coupa court à l'entretien et laissa l'homme sur le trottoir. Jop la vit disparaître et regagna son logis. Arrivé dans sa chaumière, il s'assit au coin de la cheminée sans feu, contemplant les chenets de fer et le bois disposés dans l'âtre pour chauffer la bouillotte du lendemain matin. Un bruit venu de l'étage supérieur l'arracha à sa rêverie, et il vit bientôt Henchard qui descendait de sa chambre, où il semblait avoir fouillé dans des caisses. « Je voudrais que vous me rendiez un service, Jop, » fit Henchard. « Ce soir, tout de suite même, si vous le pouvez, bien entendu. Voulez-vous déposer ceci chez Mrs. Farfrae? C'est un paquet pour elle. Je le porterai bien moi-même, mais je ne me soucie guère d'être vu dans cette maison-là. » Il tendit à Jop un paquet cacheté, enveloppé de papier brun. Fidèle à sa parole, il avait, sitôt rentré, cherché dans ses pauvres meubles et recueilli jusqu'au dernier tous les papiers portant trace de l'écriture de Lucetta. Jop grommela une indifférente parole d'acquiescement. « Eh bien, comment cela a-t-il marché aujourd'hui ? » reprit Henchard. « Voyez-vous une perspective de débouché quelconque ?»« J'ai peur que non, » répondit l'autre, qui n'avait pas fait allusion à sa requête à Farfrae. « Vous ne trouverez jamais rien à Casterbridge, » déclara Henchard, d'un ton concluant. « Il faudra que vous alliez chercher plus loin. » Et, souhaitant le bonsoir à Jop, il regagna sa chambre. Jop restait assis dans son coin, lorsque ses yeux furent attirés vers le mur par l'ombre de la chandelle. Il regarda la mèche et vit qu'elle s'était roulée en boule comme un chou-fleur incandescent. Puis ses yeux tombèrent sur le paquet d'Henchard. Il savait qu'il y avait eu quelque chose entre l'ancien maire et l'actuelle Mrs. Farfrae, et ses idées vagues sur le sujet se concrétèrent en une forme définie. Henchard détenait un paquet appartenant à Mrs. Farfrae et avait des raisons de ne pas le reporter lui-même. Que pouvait-il donc y avoir dans ce paquet? Il se le demandait si bien que, poussé par son ressentiment pour ce qu'il appelait le dédain de Lucetta et par son désir de savoir si cette transaction comportait quelque chose de louche, il finit par examiner le paquet. La plume et tous les instruments épistolaires étaient pour Henchard d'un maniement difficile, et il avait omis d'imprimer une empreinte sur ses cachets, sans s'aviser que cette précaution assurait seule l'efficacité de la fermeture. Beaucoup moins novice, Jop souleva l'un des cachets avec son canif, jeta un coup d'œil par le coin ainsi entrebâillé, et vit que le paquet se composait de lettres. Fort de cette notion, il cacheta à nouveau l'extrémité ouverte, en ramollissant la cire à la flamme de la chandelle, et partit avec le paquet comme Henchard l'en avait prié. Il suivait, au pied de la ville, la berge de la rivière. Il retrouva la lumière des lampes près du pont de la rue Haute, et vit la mère Coxom et Nance Mockridge qui bavardaient contre le parapet. On allait descendre la rue du Fumier et jeter un coup d'œil aux doigts de pierre avant de se mettre au lit, fit Mrs. Coxom. On y entend le bruit d'un violon et d'un tambourin. Seigneur, qu'est-ce que cela peut être? « Venez aussi, Jop, cela ne vous retardera pas de 5 minutes. » Jop évitait d'ordinaire semblable compagnie, mais les circonstances présentes le rendaient plus insouciant que de coutume, et sans dire grand-chose, il résolut d'accompagner les deux femmes avant de poursuivre sa route. Si le haut d'Urnover se composait d'un amas singulier de granges et de fermes, la paroisse comportait un autre quartier moins pittoresque. C'était la rue du Fumier, en grande partie démolie aujourd'hui. La rue du Fumier était la caverne d'Adulam de tous les villages voisins, le refuge de tous les malheureux, de tous les endettés, de tous les persécutés, journaliers et paysans qui se distrayaient du travail par un peu de braconnage, et du braconnage par des brailleries et des beuveries, finissaient tôt ou tard par y arriver. Mécaniciens ruraux trop paresseux pour monter sur leurs machines, et garçons de ferme trop révoltés pour servir, échouaient dans la rue du Fumier, ou y étaient poussés. La rue enfonçait comme un coin son fouillis de chaumières dans la plaine humide et brumeuse. On y découvrait bien des tristesses, bien des vilenies, bien des horreurs parfois. Le vice s'étalait librement à certaines portes du quartier. L'insouciance hargneuse gîtait sous bien des toits à cheminées tordues. La honte se cachait derrière maintes fenêtres. Et près des saules, le vol habitait, au temps de pénurie, plus d'une chaumière à mur de boue. Le meurtre même n'y était pas chose tout à fait inconnue, et dans une allée bordée de pauvres baraques, on aurait pu élever un hôtel à la maladie. Tel était ce quartier du Fumier, au temps où Henchard et Farfrae étaient maires. Cette feuille pourrie d'une plante robuste et florissante donnait pourtant sur la pleine campagne. Les taudis se pressaient à moins de 100 pas d'une allée d'ormes magnifique, et de la rue l'on pouvait voir les hauts plateaux, les champs de blé et les maisons des notables. Un ruisseau séparait la lande des habitations, et il ne semblait pas y avoir de pont pour le franchir, pas d'autre moyen de rejoindre le quartier que de suivre le détour de la route. Mais chaque maison recélait sous son escalier une planche large de 9 pouces, et cette planche formait un pont particulier. Celui des mystérieux habitants qui revenaient du travail la nuit, et la nuit était le véritable moment du travail dans la rue du Fumier, traversait furtivement la plaine jusqu'au bord du ruisseau et sifflait devant sa maison. Une silhouette se dessinait bientôt sur l'autre bord, et sur le ciel se détachait l'extrémité d'une planche. On abaissait le pont improvisé que l'homme traversait, et une main l'aidait à prendre pied sur la berge avec les faisans et les lièvres qu'il avait récoltés dans les châteaux voisins. Il les vendait le lendemain en cachette, et, traduit le surlendemain devant le magistrat, sentait dans son dos le regard de sympathie de tous ses voisins. Il disparaissait quelque temps, puis revenait vivre tranquillement dans la rue du Fumier. L'étranger qui suivait cette rue à la brune était frappé de 2 ou 3 particularités. De temps en temps, sortait de la cour de derrière d'une auberge située à mi-chemin un vacarme de bois heurté. C'était le bruit d'un jeu de quilles. Dans les divers domiciles, on pouvait admirer aussi l'abondance des siffleurs, et de presque toutes les portes sortait un sifflet quelconque. Enfin, la fréquence des tabliers blancs passés sur les robes douteuses de femmes debout sur leur seuil l'étonnait plus encore. Un tablier blanc constitue un objet suspect dans une situation qui rend la propreté difficile. De plus, l'activité et le soin qu'aurait dû impliquer cette blancheur étaient démentis par la posture et l'aspect de celle qui l'arborait. Elles posaient leurs poings sur les hanches, ce qui leur donnait un air de peau à 2 anses, et s'appuyaient les épaules au chambranle de la porte. Le visage de ces honnêtes dames et leurs non moins honnêtes yeux se tournaient avec une vivacité singulière dès que retentissait dans la rue un bruit qui rappelait un pas masculin. Et pourtant, au milieu de tant de tristesse, l'humilité besogneuse avait aussi son gîte. Sous certains des toits du quartier vivaient des âmes pures et droites, dont la présence en ces lieux était due à la main de fer de la nécessité et à elle seule. Des familles de villages déchus, ou de cette classe naguère prospère, mais aujourd'hui presque éteinte, de paysans qu'on appelait tenanciers ou fermiers à vie, d'autres encore qui avaient vu, pour une raison quelconque, s'écrouler la charpente de leur maison et avaient dû quitter le petit coin qui était depuis des générations le berceau de leurs ancêtres, tout cela se réfugiait dans la rue du Fumier, s'ils ne voulaient pas coucher au bord de la route, à l'abri d'une haie. L'auberge nommée le Doigt de Pierre était l'église du quartier. Placée en plein centre, comme doivent l'être de tels établissements, elle était socialement aux 3 matelots ce que ceux-ci étaient aux armes royales. À première vue, l'aspect de l'auberge était si respectable qu'on en était surpris. Le degré accédant à une porte toujours close restait si propre que bien peu de gens, évidemment, devaient en fouler la surface sablée. Mais au coin de la maison, il y avait une allée, simple fente qui la séparait de l'habitation voisine. À mi-chemin de cette allée s'ouvrait une porte étroite, dépeinte et polie par le frottement de mains et d'épaules innombrables. c'était la véritable entrée de l'auberge. Un promeneur qui marchait dans la rue d'un pas nonchalant s'éclipsait brusquement, en laissant les curieux ouvrir de grands yeux, comme Ashton devant la disparition de Ravenswood. Le nonchalant promeneur s'était glissé dans la fente par un subtil mouvement de côté, et un semblable exercice d'adresse le faisait pénétrer du couloir dans l'auberge. Les habitués des Trois Matelots étaient personnages de qualité en comparaison des gens qui se réunissaient là. Il faut reconnaître pourtant que les derniers clients des matelots et les plus huppés du doigt de pierre avaient plus d'un point commun. Vagabonds et épaves de toutes sortes se réunissaient en ce lieu. L'aubergiste était une femme vertueuse, injustement condamnée un jour à un an de prison comme complice d'un délit quelconque. L'accomplissement de sa peine lui avait valu depuis lors une attitude de martyr, sauf en face de l'agent qui l'avait arrêtée et pour qui elle avait toujours un clignement d'yeux significatif. C'est dans cette maison que venaient de pénétrer Job et ses compagnes. Les bancs étroits et hauts où ils s'assirent avaient leurs dossiers fixés par des cordes et des crochets plantés dans le plafond. Sans cette précaution, ils roulaient et se renversaient volontiers, dès que les consommateurs devenaient un peu turbulents. De la cour parvenait le grondement de tonnerre des boules. Une crémaillère pendait derrière le tablier de la cheminée. Sur les sièges se coudoyaient braconniers et ex-garde-chasse, que des châtelains avaient accusés sans raison. Ces hommes s'étaient rencontrés autrefois face à face au clair de lune, mais le défaut de condamnation pour les uns, le retrait de faveur et l'expulsion pour les autres, les avaient amenés à un commun étiage dans cette auberge, où ils remuaient paisiblement leurs souvenirs anciens. « Tu te souviens de ton adresse à lancer une truite sur la berge avec un roseau sans faire de bruit dans l'eau, Charles ?» rappelait un garde renvoyé par son maître. « Je t'ai pris une fois ce petit jeu-là, si tu te rappelles. » « Bien sûr, mais la plus sale histoire qui me soit arrivée, c'est cette affaire des faisans du bois de Yolbury. Ta femme a fait un faux témoignage cette fois-là, Joe. Oui, par Dieu, c'est certain, il n'y a pas à le nier. » « De quoi s'agissait-il, sans qui Job ?»« Eh bien, on s'était empoignés, Joe et moi. » Et on se roulait par terre, tout contre la haie de son jardin. Voilà qu'au bruit, sa femme accourt, avec un tisonnier. Comme il faisait noir sous les arbres, elle ne voyait pas qui était en dessus. « Où que tu es, Joe ?» qu'elle crie. « Dessus ou dessous ?»« Oh, dessous, par Dieu !» qui répond. Elle se met alors à me ramonner les côtes, la tête et le dos, à coups de tisonnier, jusqu'à ce que Joe finisse par rouler sur moi. « Où que tu es maintenant, mon Joe ? Dessus ou dessous ?» qu'elle recommence à crier. C'est elle qui m'a fait pincer par Saint-Georges, et voilà que devant le juge, elle jure que le faisan faisait partie de ses couvées. Il n'était pourtant pas du tout à toi, cet oiseau-là, Joe. Il venait de chez le Squire Brown, voilà de chez qui il venait, et je l'avais chippé en passant dans son bois une heure auparavant. Cela m'avait blessé au fond du cœur, un mensonge pareil. Mais maintenant, c'est fini. J'aurais pu te pincer bien avant, répondit le garde. 10 fois je m'étais trouvé près de toi quand tu portais un joli chapelet d'oiseaux. « Oui, c'est pas toujours nos plus beaux exploits qui attirent l'attention, » soupira la marchande de fromenté, qui, installée depuis peu dans le quartier, était devenue une habituée de l'auberge. Ses nombreuses pérégrinations lui avaient valu la largeur d'idées des grands voyageurs. C'était elle qui, un instant après, s'enquit auprès de Job de la nature du paquet qu'il serrait si bien sous le bras. « Ah, c'est un gros secret, » fit Job. Un secret de passion amoureuse. Penser qu'une femme aime si fort un homme, mais en exècre si cordialement un autre. À qui s'adressent vos réflexions, monsieur ? À une personne qui a une grosse réputation dans la ville. J'aimerais bien étaler sa honte. Sur ma vie, cela vaudrait le meilleur des jeux, de lire ses lettres d'amour à cette orgueilleuse poupée de cire et de soie. Car ce sont ces lettres d'amour que j'ai là. « Des lettres d'amour ? Alors il faut les lire, mon bon ami !» s'écria la mère Coxom. « Seigneur, tu te souviens, Richard, comme nous étions nigauds dans notre jeune temps, nous demandions à un gars de l'école d'écrire nos lettres et nous lui donnions un penny pour ne pas dire aux autres ce qu'il avait mis dedans. » Cependant, Job avait glissé son doigt sous les cachets et dénoué les lettres. Il en prit quelques-unes au hasard dans le tas et les lut à haute voix. Ces passages jetaient un certain jour sur le secret que Lucetta aurait voulu si jalousement garder à jamais enfoui, sans le révéler clairement cependant, car les lettres ne renfermaient que des allusions. « C'est Mrs. Farfrae qui a écrit cela !» s'indigna Nance Mockridge. « Il est humiliant pour des femmes respectables qu'une personne de leur sexe se conduise ainsi, et la voilà maintenant qui a fait des promesses à un autre homme. »« Tant mieux pour elle !» fit la vieille marchande de fromenté. Ah, je l'ai sauvée d'un triste mariage, et elle n'a jamais songé à m'en remercier.
« Dites donc, il y aurait bien la matière et une skimmity ride ?» suggéra Nance.
Note du traducteur. La skimmity ride, à quoi il est fait allusion dans ce chapitre, représente une ancienne coutume d'Écosse et d'Angleterre, aujourd'hui abolie. Lorsque des racontars malveillants associaient les noms d'une femme mariée et d'un homme qui n'était pas son mari, on attachait sur un âne deux fantoches de paille habillées à la façon des inculpés et on les promenait par les rues à la lumière des torches et à grand renfort de trompettes et d'instruments primitifs. On retrouverait d'ailleurs le souvenir de semblables cavalcades dans maintes provinces françaises.
« C'est vrai, réfléchit Mrs. Coxsom. Je n'ai jamais connu occasion meilleure et il ne faut pas la laisser échapper. » La dernière que l'on a vue à Casterbridge remonte à 10 ans si elle date d'un jour. »
À ce moment retentit un coup de sifflet aigu, et l'aubergiste demanda à l'homme que l'on avait appelé Charles.
« C'est Jim qui rentre, voulez-vous aller lui poser la planche à ma place ?»
Charles et son ami Joe se levèrent sans un mot. Elle leur tendit une lanterne, et sortant par la porte du jardin, ils suivirent l'allée qui aboutissait à la berge déjà signalée. Derrière le ruisseau s'étendait la lande, d'où venait une brise molle qui leur soufflait au visage. Saisissant la planche disposée à l'avance, l'un des hommes l'abaissa au-dessus de l'eau. À peine le bout eut-il touché la rive opposée, que l'on entendit un pas ferme et qu'un homme robuste émergea de l'ombre. Il avait des bandes autour des genoux, un fusil à 2 coups sous le bras et quelques oiseaux en chapelet dans le dos. Les deux compagnons s'enquirent de sa chance.
« Médiocre !» répondit-il d'un ton indifférent. « Tout est calme à la maison ?»
Sur leur réponse affirmative, il rentra dans l'auberge. Les deux autres relevèrent le pont et suivaient le braconnier lorsqu'un cri « Hola !» venu de la lande les arrêta sur le chemin. L'appel se répéta. Cachant leur lanterne dans une petite cabane en planche, ils retournèrent vers le ruisseau.
« Hola, suis-je sur la route de Casterbridge ?» lança une voix de l'autre bord.
« Pas tout à fait, » répondit Charles. « Il y a de l'eau devant vous. »
« Cela m'est égal, il doit y avoir de quoi traverser, » cria l'homme. « J'ai assez marché aujourd'hui. »«
Attendez un instant, » fit Charles, en comprenant que le nouveau venu n'était pas un ennemi. « Joe, apporte la planche et la lanterne. Voilà un gars qui a perdu son chemin. Vous auriez dû suivre la grande route, l'ami, au lieu de prendre à travers champs comme cela. »«
C'est vrai, je le comprends maintenant. Mais voyant une lumière, je m'étais dit c'est un raccourci. Tu peux bien être sûr. »
La planche fut abaissée, et la silhouette de l'étranger se dessina dans l'ombre. C'était un homme d'âge moyen, dont les cheveux et les favoris précocement gris encadraient un visage large et bienveillant. Il avait traversé le ruisseau sans hésitation et ne paraissait trouver rien de singulier à ce mode de passage. Il remercia les deux hommes et remonta l'allée entre eux.
« Qu'est-ce que c'est que cette maison-là » demanda-t-il en arrivant à la porte.
« Une auberge. »«
Ah, il pourrait m'arranger de m'y installer. Allons entrer. » « Et venez vous mouiller le sifflet pour votre peine. »
Ils suivirent l'étranger dans le cabaret, et la lumière leur fit voir un homme dont l'aspect, plus que les paroles, révélait la situation sérieuse dans la vie. Vêtu avec une sorte de richesse maladroite, il portait un manteau fourré et une toque de veau marin, qui devait être bien chaude le jour, en ce printemps précoce, si la fraîcheur des nuits la rendait opportune. Il tenait à la main une petite caisse d'acajou, garnie de bandes de cuivre, et fermé avec des courroies. Évidemment surpris de la société entrevue par la porte de la cuisine, l'étranger renonça tout de suite à l'idée de loger dans la maison. Il s'accommoda pourtant de bonne grâce de la situation, et, restant debout dans le vestibule, demanda et paya la meilleure des consommations. Il se dirigeait vers la porte de devant pour se remettre en route, et l'aubergiste tirait les verrous, lorsque la discussion sur la skimmity ride, qui se poursuivait dans la salle commune, parvint aux oreilles du voyageur.
Qu'est-ce qu'elles appellent donc skimmity ride ? Demanda-t-il.
Oh, monsieur, répondit la femme en balançant ses longs pendants d'oreilles avec modestie, et comme pour excuser les autres, c'est une vieille coutume ridicule à laquelle on a recours dans nos régions quand une femme n'est pas exclusivement la femme de son mari. Mais en commerçante respectable, je n'encourage pas ce genre de choses.
Pourtant, on va en faire une bientôt. C'est un spectacle amusant à voir, sans doute.
« Oh, monsieur » minaudait-elle. Puis, le naturel reprenant tout à coup son pouvoir, elle ajouta avec un regard oblique.
« C'est ce qu'on peut voir de plus amusant sous le soleil, mais cela coûte gros. »
« Ah oui, je me souviens maintenant d'avoir entendu parler de cela. Je dois passer 2 ou 3 semaines à Casterbridge et ne serais pas fâchée de voir la chose.
Attendez un instant. » Ils se retournaient pour entrer dans la salle. « Tenez, bonnes gens, j'aimerais bien être témoin de la vieille coutume dont vous parlez, et je veux y contribuer pour ma part. Prenez cela. » Il jeta un souverain sur la table, revint à la porte, demanda à l'hôtelière le chemin de la ville et prit congé d'elle. Il y en avait encore d'autres avec celui-là, fit Charles, lorsqu'on eut remis le souverain à la garde de l'aubergiste. Par Dieu, nous aurions dû lui en soutirer quelques-uns pendant que nous le tenions là. Non, non, protesta la femme, vous êtes dans une maison respectable. Dieu merci, et j'entends qu'on n'y fasse rien que d'honorable. Allons, conclut Jop, l'affaire est dans le sac maintenant. Elle sera bientôt en train. Bientôt, approuva Nance. Une bonne rigolade, cela réchauffe mieux le cœur qu'un cordial, je vous le jure. Jop ramassa les lettres, mais l'heure tardive l'empêcha de les porter chez Farfrae ce soir-là. Rentré chez lui, il referma le paquet et le porta le lendemain matin à son adresse. Une heure après, le contenu en était réduit en cendres. Lucetta, la pauvre âme, serait volontiers tombée à genoux de gratitude en songeant qu'il ne subsistait aucune preuve de ses tristes relations passées avec Henchard. Elle avait certes péché par imprudence et négligence, plus que par intention. Mais cet épisode de sa vie, s'il avait été révélé, n'aurait pas moins creusé un abîme fatal entre son mari et elle.